inspiré la formation théologique. Donc aujourd'hui, c'est la création et la condition humaine. Okay, les trois grandes questions dans la vie sont: qui sommes-nous, d'où venons-nous et qu'est-ce qui se passe après la mort? Toutes les religions dans l'histoire du monde ont pour but de répondre à ces questions. Aujourd'hui, je voudrais étudier les deux premières de ces questions, mais la difficulté avec ces questions et avec leurs réponses, c'est que personne n'était vivant au commencement de l'univers. Donc personne ne peut répondre avec certitude en se basant seulement sur ses observations. Pour tous ceux qui cherchent tout seuls les réponses aux questions ultimes, le résultat sera toujours ambigu et spéculatif. Par exemple, j'ai lu un article dans un journal scientifique il y a quelques semaines sur l'origine de l'humanité. L'auteur a présenté tous les exemples des plus anciens restes humains qu'on a trouvés dans le monde. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le plus on trouve d'éléments, plus on crée de spéculations. Dans cet article qui concerne les scientifiques les plus connus dans le monde et de la recherche sur les origines de l'homme, les expressions qui apparaissent le plus souvent sont peut-être, on croit que, c'est pas sûr, mais, et le quatrième qui est ma phrase préférée, c'est avec ce morceau d'os et l'aide d'un artiste, on peut devenir l'apparence possible de notre ancêtre. À mon avis, il y a un problème quelque part si on a besoin d'un artiste de finir le travail d'un scientifique dans cette situation. En ce qui concerne nos origines, on n'a plus des questions que des réponses. Alors, je sais qu'il n'y a pas un consensus parfait, même entre les chrétiens, sur le sujet des origines. Mais le but pour moi aujourd'hui est d'aborder la réflexion, non pas avec de la spéculation ni avec des théories scientifiques, mais avec ce qui est vraiment certain, la parole de Dieu. Okay? Le sujet aujourd'hui, le sujet général, c'est la création et la condition humaine. Quand j'utilise l'expression « condition humaine », je veux dire ce qui concerne notre origine en tant que création de Dieu et notre existence en relation avec Dieu après la chute. L'étude de la création et la condition humaine est censée apporter une réponse donc aux questions: qui sommes-nous et d'où venons-nous? Les doctrines de la création et de la condition humaine affirment qu'il y a deux choses dans l'univers. Ok, deux choses dans l'univers. Dieu qui est éternel et tout le reste qui est limité. La doctrine de la création nous enseigne que l'univers n'est pas divin, contrairement à ce qui enseigne le panthéisme, et que l'univers n'est pas non plus le résultat de forces aveugles d'évolution, ce qui entraînerait le désespoir. Par ailleurs, les humains ne sont pas les dieux, ce qui serait de l'idolâtrie. Et nous ne sommes pas non plus le produit de hasard, ce qui aboutirait au nihilisme. Les doctrines de la création et de la condition humaine forment le bon cadre pour comprendre notre existence. Donc on va commencer avec la création. La Bible dit qu'il y a deux manières de comprendre que Dieu est créateur et de le savoir pour certains. Premièrement, on peut examiner la nature et voir qu'il y a des indices qui révèlent l'existence de Dieu. Ça, c'est la théologie naturelle. Deuxièmement, on peut examiner la Bible elle-même pour comprendre avec certitude qui est ce Dieu. Et ça, c'est la théologie spéciale, la révélation spéciale. Les deux sont importantes pour comprendre d'où nous venons, mais il faut étudier les deux en se plaçant sous l'autorité de la parole de Dieu. Donc, on va commencer avec la théologie naturelle. Et on va étudier quelques passages. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 1, versets 18 à 20, Psaume 19, versets 2 et 3, et Ecclésiaste 3, 11, s'il vous plaît.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
Merci. On a les perfections invisibles, la puissance éternelle, la divinité de Dieu qui est évidente dans la création. Ok, le psaume 19.
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit.
D'accord. Les cieux racontent et annoncent l'existence d'un créateur. Et Ecclésiaste 3:11.
Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin.
Dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Donc le but de ces textes est de montrer que la création révèle qu'il y a quoi? Un créateur. L'éternité est dans nos cœurs. Et si on examine la création, on va trouver qu'il y a quelqu'un à l'origine de la création. Dans ces textes, il y a un même appel au bon sens quand on regarde la création. La conclusion logique de ce que nous voyons autour de nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir au monde dont nous faisons partie. Les philosophes et les scientifiques chrétiens ont développé beaucoup de bons arguments pour l'existence d'un créateur. Ces arguments examinent le monde autour de nous et tentent de montrer que Dieu est la meilleure explication possible de ce qui existe. Okay? Il y a plusieurs bons arguments, mais je vais brièvement en examiner trois des plus forts. Premièrement, il y a l'argument cosmologique. Cet argument commence par examiner le temps et l'espace pour se demander comment l'univers a commencé. Après tout, il y a beaucoup de choses qui existent dans l'univers. Des étoiles, des planètes, la lumière, des rayons, des êtres, etc. Étant donné que ces choses existent, il y a deux possibilités seulement pour expliquer leur existence. Soit on dit qu'elles ont toujours existé, soit on dit que quelque chose d'éternel est à l'origine de leur existence. Pour les Grecs de l'Antiquité, toute la matière de l'univers est préexistante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de commencement. Toutes ces choses ont toujours été là. Pour eux, un gendre de Dieu a trouvé la matière et l'a utilisé afin de réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Mais pour moi, je pense que cette idée est impossible parce que cette idée présuppose la possibilité de ce qu'on appelle une infinité réelle. Okay? Une infinité réelle. Une infinité réelle, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Okay? Je vais expliquer un peu. Imaginez donc une bibliothèque avec une infinité réelle de livres rouges et une infinité réelle de livres noirs. Le problème mathématique est simple. Une infinité réelle de livres rouges plus une infinité réelle de livres noirs égale une infinité. Rien n'a changé. Okay? Si vous ajoutez un autre livre, vous avez toujours une infinité. L'infinité ne change pas, comme on le voit dans cet exemple. Une infinité réelle de livres rouges plus un infinité réel de livres noirs, plus un, ou deux, ou trois, ou n'importe quoi, égale une infinité. Rien n'a changé. Ce n'est pas logique. Ok? Ce n'est pas logique parce qu'on peut ajouter autant de livres noirs ou rouges qu'on veut, et ça ne change pas le total. Alors, imaginez que chaque livre ait une infinité réelle de pages. Si vous lisez toutes les pages d'un livre, alors que moi, je lis tous les livres, avec une infinité réelle des pages aussi, nous allons lire le même nombre de pages. Ok? Ce n'est pas logique. Une infinité réelle est impossible. Pour tout ce qui existe, dans le temps et dans l'espace, il faut un commencement. Ok? Je sais, c'est un exemple un peu compliqué, mais ça c'est l'idée ici. Il faut un commencement. Considérez le syllogisme suivant. Toute chose qui existe a un commencement. L'univers existe, donc l'univers a un commencement. Ok? Toute chose qui existe a un commencement. L'univers existe, donc l'univers a un commencement. Une infinité réelle n'a ni commencement ni fin. Mais ça, c'est impossible dans un univers où le temps existe. C'est un problème pour la physique. Une infinité réelle est impossible. Les quatre dimensions, du temps et de l'espace ne peuvent exister qu'à condition qu'il y ait eu un commencement. Le commencement, c'est Dieu. Si le temps était infini, alors une infinité de temps aurait dû passer avant le jour où vous êtes né. Ok? Par exemple, si votre jour de naissance est le 7 octobre 1990, et si l'univers est infini, alors une infinité de temps devrait passer avant votre naissance. Et on ne pourrait pas passer une infinité de temps, puisque par définition, c'est infini. Il resterait donc toujours une autre année à passer avant votre année de naissance, un autre jour, une autre semaine, une autre minute. Vous ne pourriez pas exister dans un univers comme ça. Parce qu'avant que vous existiez, une infinité de temps devrait passer, ce qui est impossible. Mais étant donné que vous avez un jour de naissance, et étant donné que vous existez, il est impossible que le temps soit infini. Le temps et l'espace existent parce que le Dieu éternel existe. Il n'est pas lié par le temps et par l'espace. Si quelque chose existe, c'est parce que Dieu existe. Donc ça, c'est une illustration, l'argument cosmologique. Ensuite, et deuxièmement, je voudrais examiner l'argument moral. C'est une autre partie de la théologie naturelle. Au fond, l'argument moral prétend que sans Dieu, il ne peut pas y avoir de morale objective. Notre sens moral et notre sens rationnel existent parce qu'un créateur nous les a donnés. L'argument moral est un argument qui consiste à offrir la meilleure explication possible. Le christianisme est la meilleure explication possible, à mon avis. L'argument prétend que s'il n'y a personne pour définir et pour donner la morale, il ne peut pas y avoir de morale objective. Mais toute l'humanité a un sens moral et une connaissance du bien et du mal. L'athéisme n'explique pas ce sens ni cette connaissance. Il y a donc un Dieu qui donne le sens moral aux êtres humains. Le problème de la morale pour l'athée est grave, parce que si Dieu n'existe pas, cela veut dire que l'humanité doit créer elle-même une morale en fonction de laquelle vivre. Ok? Mais le résultat de cette philosophie, c'est d'accepter la morale de Nietzsche. La morale de Nietzsche, c'est l'oppression, c'est l'offense, l'insulte et l'esclavage. L'autre option est d'accepter la morale du biologiste anglais Richard Dawkins, qui a dit que la chose la plus importante pour l'humanité est de transmettre son code génétique à la prochaine génération. Même si ça nécessite le meurtre, le vol et l'égoïsme le plus extrême. Ça, c'est la conclusion de la moralité athée. Si on prétend que la morale objective et l'âme rationnelle existent, il leur faut une origine divine, comme nous le lisons dans Romains 1 et 2. Ok, ça c'est la deuxième illustration. Finalement, je vous invite à réfléchir à l'argument de la complexité irréductible. La complexité irréductible. Le psaume 19 déclare que Dieu est créateur. L'argument de la complexité irréductible montre que la complexité de l'univers est possible seulement s'il y a un créateur. Un système qui a une complexité irréductible, c'est un système qui nécessite que toutes ses parties marchent correctement. Ok, je vais expliquer. Si on observe une cellule ou l'œil humain, on observe quelque chose qui a une complexité irréductible. Si on enlève une des parties du système, la cellule ou l'œil ne fonctionne pas. Les scientifiques qui présentent cet argument utilisent l'illustration d'une cerisière. Une cerisière est faite d'une petite planchette en bois, okay, une petite planchette en bois, d'un marteau pour écraser la cerise, okay, d'un ressort, d'un bouton ou d'un levier et d'une petite barre en métal. Okay. Qu'est-ce qui se passe si on retire une partie de la cerisière? Est-ce que la cerisière devient juste un peu moins efficace pour piéger la souris? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle ne fonctionne plus. Elle est cassée. De la même façon, l'évolution ne peut pas soudainement produire une machine biologique qui a une complexité irréductible. Parce que c'est trop compliqué. Et l'évolution ne peut pas produire la même machine avec beaucoup d'étapes successives, ok? Parce qu'il manquerait à chaque système précédent une ou plusieurs parties nécessaires au fonctionnement. L'évolution ne peut pas marcher comme ça. Si quelque chose est inutile, par conséquent, c'est rejeté. Considérez l'œil humain. L'œil contient beaucoup de parties essentielles. Il y a une rétine, un nerf optique, une cornée, une iris, une pupille, c'est ça? Pupille? Ok. C'est... Ouais, ok. Et un cristallin. Et 10 ou 20 autres choses qui sont indispensables. Qu'est-ce qui se passe si on retire une partie de l'œil? Ça ne marche pas. Si par hasard, l'évolution avait produit un cristallin ou un nerf optique, mais pas les autres parties nécessaires, qu'est-ce que ça aurait fait? Les parties inutiles auraient été rejetées et elles auraient disparu pour les générations suivantes. Quand on observe le monde, toutes les complexités biologiques sont autant de témoignages de l'existence d'une âme intelligente qui a créé. Alors, en ce qui concerne les arguments philosophiques et scientifiques, ils ne remplacent pas la connaissance que l'on peut avoir de Dieu dans la Bible. Okay? C'est une illustration, c'est des illustrations. L'idée, c'est que les arguments renforcent ce que la Bible a déjà dit. Si on regarde le monde autour de nous, la nature, la terre, le ciel et l'âme humaine, tout cela pointe vers Dieu. Les arguments philosophiques et scientifiques démontrent qu'il y a quelque chose, ou plus précisément, quelqu'un qui a créé l'univers, mais ces arguments sont limités. il y a encore beaucoup de questions sur l'origine de l'univers auxquelles l'homme tout seul ne peut pas répondre. Mais tandis que nos spéculations sont ambiguës, la Bible est plus claire. Donc on va regarder la révélation spéciale et la création de Dieu. Dans la première session de la formation théologique, on a discuté du rôle de la Bible en tant que vraie parole de Dieu, pas en tant qu'œuvre mythologique. On a conclu que la Bible était quelque chose auquel on pouvait se fier. Quand la Bible dit que Dieu est créateur, cela veut dire que Dieu est parfaitement capable de faire quelque chose sans qu'il y ait rien, qu'il n'y ait rien de matériel à sa disposition, et de dire un simple mot pour créer tout ce que nous voyons. On va examiner quelques passages qui parlent de la création. Quelqu'un peut lire Genèse 1, versets 1 et 2. Quelqu'un autre, Colossiens, chapitre 1. Il y a un passage en Jean et Job et Psaume 33.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.
D'accord, donc Dieu est créateur et l'Esprit était présent. Colossiens 1.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'avant lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Merci. Et Jean 1, versets 1 à 3.
Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle.
Donc ces deux passages parlent de Jésus-Christ qui a tout créé. Ok. Job 38. Le passage de ce matin.
Où es-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi les bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin qui a fait ensemble en chant d'allégresse? Que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes? Quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes? Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues.
Merci. Le dernier passage, Psaume 33. Le verset 6 et 9.
Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe.
Merci. Donc en regardant les passages qui parlent de la création de Dieu, on y apprend trois choses importante. On apprend qui exactement a créé, comment il a créé et qu'est-ce qu'il a créé. Premièrement, c'est la Trinité qui a créé le monde. Nous lisons dans Genèse et dans l'Évangile de Jean que le Père, le Fils et l'Esprit étaient présents et actifs dans la création. Le mois dernier, on a réfléchi à Dieu et à ses attributs. La Bible est claire en ce qui concerne le genre de Dieu qui a créé le monde. Le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu nécessaire. Il est un Dieu nécessaire. Il est impossible qu'il y ait un univers s'il n'y a pas de Dieu. Okay? Dieu est nécessaire. Le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu intelligent. Il est un Dieu qui a imaginé toutes sortes de choses qu'il a créées et qui a su comment les créer. Okay? Donc il est un Dieu nécessaire et intelligent. Le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu puissant. Le créateur de l'univers avait nécessairement le pouvoir de réaliser tout ce qui existe. Le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu libre. Il n'est pas dépendant de sa création. Et il n'était pas non plus obligé de créer. Le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu éternel. Il n'est pas limité par les confins de temps et de l'espace. Okay? Donc il est nécessaire, intelligent, puissant, libre et éternel. Le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu vivant, agissant et personnel. Il est un Dieu qui a créé pour son plaisir et par son amour. Deuxièmement, Dieu a créé ex nihilo. La prononciation, c'est bon, Alex? Ex nihilo, ok. L'idée contenue dans l'expression ex nihilo, c'est l'idée que Dieu a créé sans matière. Il a parlé et l'univers a apparu. Ok. Dans un sens, il a créé avec rien. En hébreu, le mot pour créer est bara. C'est clair dans le texte de Genèse 1:1 que Dieu a vraiment créé. Ok? Il n'a pas façonné le monde avec une matière préexistante. Il a fait exister la matière. Ça, c'est le sens de cette mot en hébreu. Il a créé tout. C'est clair dans le texte que l'univers a un commencement. C'est clair qu'au début, il n'existait rien de physique. Tout ce qui n'est pas Dieu a été créé par Dieu. L'expression « les cieux et la terre » est une expression inclusive qui signifie tout. Donc Dieu a créé tout. Contrairement aux dieux grecs de l'Antiquité ou aux dieux de mormonisme, le vrai Dieu est éternel. Okay? Lui seulement est éternel. Selon les mormons, les hindous et les panthéistes orientaux, l'âme est infinie. L'âme est infinie. Il n'y a pas de distinction entre l'homme et Dieu. De plus, les mormons enseignent que Dieu n'est pas le créateur, mais le façonneur du monde. Pour les hindous et les bouddhistes, le monde physique est une illusion. Mais en revanche, la Bible nous enseigne que l'homme et le monde physique sont des créations de Dieu. Troisièmement, Dieu a créé tout ce qui existe. Il a créé la matière ex nihilo et après, il a façonné avec le plus grand soin. Genèse 1 présente 6 jours ou 6 étapes de la création. Les 6 jours représentent 6 actes différents de Dieu lorsqu'il a créé l'univers. Une des buts de Genèse 1 est de montrer que Dieu est créateur et seigneur au-dessus de tout ce qui existe. Il crée mais il fixe aussi les limites, les fonctions et l'ordre de la création. Genèse 1 ne laisse aucune ambiguïté quant au fait que c'est Dieu qui a créé la lumière, les éléments qui composent le monde, toute matière organique, les animaux et les êtres physiques et spirituels. C'est Dieu qui est la source ou l'origine de toute chose. La doctrine de la création implique quatre choses importantes. L'univers, y compris l'homme, n'est pas un objet de louange. C'est pas un objet de louange. L'univers, y compris l'homme, est limité. L'univers, y compris l'homme, est gouverné par Dieu et redevable à Dieu. L'univers, y compris l'homme, est bon, même maintenant après la chute. D'accord. Ça, c'est la création. Donc, on va discuter un peu la condition humaine et l'image de Dieu. Alors, quand on parle de la condition humaine, on parle de l'état de notre existence. La condition humaine contient des choses bonnes et des choses mauvaises, des choses merveilleuses et des choses horribles. Nous vivons à la fois avec l'image de Dieu que nous avons reçue au moment de notre création, et nous vivons dans l'atrocité de la chute et dans le péché. On va examiner les deux aspects de la condition humaine en commençant avec l'image de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a dit que c'était quoi? Que c'était bon, exactement. En fait, cinq fois, Dieu a déclaré que sa création était bonne. Mais qu'est-ce qu'il a dit après la création de l'homme? Il a dit que c'était très bon. Exactement. Pour mieux comprendre en quoi l'homme est bon, on va examiner quelques passages qui parlent de la grandeur de l'homme et de l'image de Dieu. On a cinq passages, donc quelqu'un peut lire Genèse 1, verset 27 et 31, et quelqu'un d'autre, psaume 8, et les autres, toi aussi. Merci.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec des pains au noyau. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ceux qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passe ainsi.
Merci. Psaume 8.
Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicateurs. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Merci. Donc, Dieu a béni l'homme, et l'homme domine la création. C'est l'idée du passage. Jacques 3, 7 à 9.
Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme.
Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu.
D'accord, donc l'idée, c'est l'homme domine les animaux, et en maudisant l'homme, on montre de mépris pour Dieu, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Ok, et Éphésiens 4 et Colossiens 3.
C'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Merci. Colossiens 3.
Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé.
D'accord. Donc ces passages parlent d'une bonne morale et intelligence en homme. Ces passages nous apprennent que l'humanité est composée de deux choses essentielles. Une âme rationnelle et un corps matériel. Contrairement aux naturalistes ou matérialistes philosophiques, les chrétiens croient qu'il y a plus que le corps physique. Pour les chrétiens, l'âme est un élément essentiel de notre existence, et c'est un élément essentiel de l'image de Dieu. Notre âme et notre corps ensemble sont une réflexion de l'image de Dieu. Considérez le mot « image ». En hébreu, le mot « tselem » ou « image » signifie littéralement « statue » ou « idole ». Ok ? Dans un sens plus métaphorique, ça signifie « représentation ». Donc, quand Genèse 1 parle de l'image de Dieu en homme, cela ne veut pas dire que l'homme a l'image de Dieu, mais que l'homme est l'image de Dieu. Okay. L'homme est l'image de Dieu. Alors, les gens pensent souvent que l'image de Dieu s'applique à l'âme mais pas au corps. Après tout, Dieu est esprit et n'est pas un corps physique. Et je suis complètement d'accord avec cette idée. Dieu ne ressemble pas à l'homme physiquement parce que Dieu est esprit. Okay. Mais il ne faut pas oublier que le corps est un élément essentiel de l'être humain. L'homme n'est pas complet seulement en tant que corps ou seulement en tant qu'âme. Le corps est le véhicule de l'âme dans un sens. Et le corps est la création spéciale de Dieu. On trouve donc l'image de Dieu dans l'être humain complet. Le psaume 63, verset 1, soutient cette dichotomie et l'importance de l'âme et du corps en disant « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Matthieu 22 a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Marc et Luc ajoutent le mot « toute ta force » aussi. Donc, il y a le sens ici de l'homme entier. Okay. Jésus lui-même a confirmé que l'être humain est une unité composée de choses physiques, d'une part, et immatérielles, ou immatérielles, d'autre part. Okay. On voit l'image de Dieu dans toute l'excellence de l'homme. Saint Augustin a dit que chaque être humain réunis dans un être, une âme rationnelle et un corps physique. Jean Calvin a dit que l'image de Dieu propre à notre condition humaine surpasse toutes les autres créatures en commentant les paroles de l'apôtre Paul en Éphésiens 4 et Colossiens 3, comme on a déjà lu, au sujet de l'image de Dieu, Jean Calvin dit que cette image contient un jugement juste, une intelligence parfaite, une volonté libre, des affections correctes et des émotions convenables. Par ailleurs, le texte de Westminster résume ces deux versets en disant, et je vais lire article 4, juste quelques phrases. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'être humain à son image. Il créa un homme et une femme, ayant une âme raisonnable et immortelle, revêtue de connaissances, de justice et de vraie sainteté. La loi de Dieu était inscrite dans leur cœur et ils avaient le pouvoir de l'accomplir. Alors, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes réels, autant physiquement que spirituellement. Et nous sommes destins de Dieu. Cette réalité est importante pour nous chrétiens, pour rapport à nos actes et à nos responsabilités. À mon avis, notre responsabilité en tant que porteur d'image de Dieu se manifeste de 5 manières spécifiques. Premièrement, il faut que nous estimions nos semblables et que nous leur attribuions une valeur digne de l'image de Dieu. Ok, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il ne faut pas que nous nous considérions nous-mêmes comme des grands singes évolués, les australopithèques, ou comme des machines à la viande ou des steaks ambulants, dans ce sens. Nous ne sommes pas les victimes de notre code génétique. Nous avons une grande capacité intellectuelle et relationnelle. Troisième, il ne faut pas avoir peur de la mort. Nous avons un esprit éternel et un jour, on va vivre éternellement dans la présence de Dieu. La quatrième chose, il faut protéger ceux qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est important aussi. Psaume 139 parle de cette idée. Le Seigneur connaît et aime les bébés avant leur naissance. Ces bébés ont une âme, ils ont de la valeur. Aussi. La cinquième chose, il faut réaliser tout notre potentiel. Okay? Notre potentiel va au-delà de l'amour, de travail, de bon enseignement, de la famille et du respect de soi. Notre potentiel se réalise pleinement dans une juste relation avec Dieu. Alors, il faut que nous ayons une bonne compréhension qui nous sommes en Dieu, mais il ne faut pas oublier le revers de la médaille. La perspective que cela nous impose également sur notre vie. On va tourner notre attention à la chute, ok? Jusqu'à ce moment, tout était bien. La création, le jardin, les dents, l'homme et la femme, nu dans le jardin, des choses comme ça. Mais maintenant, c'est la chute. Donc, je vous pose une question. Si Dieu nous a créés glorieux pour réaliser des choses grandes et merveilleuses, pourquoi est-ce que nous sommes abominables et misérables? Qu'est-ce qui s'est passé? L'évidence empirique, c'est que l'homme est quelque chose de terrible, qui pêche, qui commet des meurtres, qui vole, qui ment, et qui aime son prochain. Le philosophe français André Comte-Sponville dit dans son livre « L'esprit de l'athéisme » qu'un des arguments les plus forts contre l'existence de Dieu, c'est la médiocrité, la vanité et la petitesse de l'homme. Je vais lire quelques phrases de ce livre. l'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. C'est ironique, c'est ridicule en fait. Mais je vais lire quelques phrases. Ok, il dit, mon cinquième argument pour justifier mon athéisme porte moins sur le monde que sur les humains. Plus je les connais, moins je peux croire en Dieu. Disons que je n'ai pas une assez haute idée de l'humanité en général, et de moi-même en particulier, pour imaginer qu'un Dieu soit à l'origine et de cette espèce et de cet individu. Trop de médiocrité partout, trop de petitesse, trop de dénéantise, comme dit Montaigne, trop de vanité, comme il dit encore. De toutes les vanités, le plus vain, c'est l'homme. C'était bien la peine d'être tout puissant. Il dit dans l'autre page ici, Dieu créa l'homme à son image, liant dans la Genèse. Cela fera douter de l'original. Que l'homme descende de singe me paraît bien davantage concevable, bien davantage suggestif, bien davantage ressemblant. Darwin, maître de miséricorde. Je vais arrêter là, mais dans un sens, Comte Sponville a raison de penser cela. Il est facile d'observer la médiocrité et la vanité en l'homme. Mais j'ajouterai que les problèmes de l'humanité ne se résument pas à la médiocrité, pas du tout. C'est pire que cela. L'humanité est complètement atroce. Mais cette réalité n'est pas un argument contre l'existence de Dieu. À mon avis, au contraire, cette réalité prouve ce que la Bible dit sur la chute, sur le péché, sur la condition dans laquelle nous vivons. On va lire quelques passages sur la chute. Genèse 3, versets 1 à 7, Romains 3, 10 à 18 et Ecclésiaste, les premiers 11 versets. Vas-y, ou allez-y.
L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rosé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
Merci. C'est la chute. Ok, Romains 3.
Quoi donc, sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperies avec leur langue. Ils ont sur leurs lèvres un onanastique. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Merci. Tous sont insensés. Ok. Ecclésiaste 1, versets 1 à 11.
Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau » Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite.
D'accord, merci. Ces passages racontent une histoire de rébellion, de péché et de vanité. Dieu a créé un univers merveilleux. Il a façonné l'humanité à partir de la poussière et à son image. Il a déclaré que tout était bon. Mais ensuite, Dieu a soumis l'homme à un genre de probation morale. Ok. Il a mis en place cette probation pour deux raisons, à mon avis. D'abord, nos premiers parents pouvaient devenir parfaits simplement en faisant les bons choix. Ok. Ensuite, après qu'il ait passé cette épreuve, Adam et Ève auraient été confirmés dans leur amour pour Dieu. Le choix était simple, persévérer dans la sainteté ou désobéir à Dieu. Nous savons tous comment ça s'est terminé. Ils ont désobéi. Ce premier péché a mené au péché universel. Toute l'humanité est maudite. Il n'y a pas vraiment d'accord unanime entre les théologiens pour expliquer comment il se fait que nous sommes tous coupables. Okay? Mais Romains 5 est clair sur le fait que le péché est entré dans le monde par le péché d'Adam. Dieu a imputé la culpabilité, la honte, la déprobation et la punition à la race humaine. Luther a dit qu'au cause de la chute, l'humanité est devenue totalement corrompue et exposée à la colère de Dieu. Calvin a dit que le destin d'Adam, notre représentant légal, en quelque sorte, devrait devenir le destin de toute humanité. Le texte Westminster dit, l'article 9, je vais lire quelques phrases, par sa chute dans l'état de péché, l'homme a perdu toute capacité de vouloir en quelconque bien spirituel en vue de salut. Aussi, l'homme naturel, radicalement opposé au bien, est mort dans le péché. Est-il hors de l'état, par ses propres forces, de se convertir ou de s'y préparer? Donc, Adam et Ève ont compris le bien en perdant le bien. Ils ont compris le mal en faisant l'expérience de mal. Ils ont abandonné leur confiance en Dieu. Ils ont devenu soupçonneux de Dieu. Ils nous ont donné une disposition qui continue aujourd'hui. Adam et Ève représentent toute l'humanité. Même aujourd'hui, nous sommes tentés de douter de la parole de Dieu, de chercher une compréhension du mal, de nier la réalité de la mort et de chercher à être des dieux. Je vais souligner cette conséquence de la chute. À l'intérieur, nous avons développé un désir pour le péché. Okay? Fonctionnellement, nos capacités volitionnelles, sentimentales et intellectuelles sont devenues mal orientées et très compliquées. Moralement, nous sommes devenus complètement dépravés. Spirituellement, notre communion avec Dieu a été brisée. Écologiquement, notre environnement est devenu maudit. En ce qui concerne nos relations, nous sommes jaloux, odieux et méchants. Ontologiquement, nous vivons dans le paradoxe de la grandeur et de la vilanie. En dehors de la grâce de Dieu, notre déprivation est totale. Nous sommes complètement incapables de changer notre situation spirituelle. Nous sommes dans une situation grave. Blaise Pascal a dit « Quelle chimère est-ce donc l'homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige ? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire des vrais, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. » J'aime beaucoup cette citation. Ça, c'est le paradoxe de la condition humaine. Nous nous sommes enlisés dans les effets de la chute. C'est encore Blaise Pascal qui a dit « Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme dépasse infiniment l'homme. Et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. » L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la création et la chute. Mais en Christ, c'est aussi l'histoire de la rédemption. Lors de la prochaine formation en octobre, on examinera la solution que la Bible offre au problème de notre condition. Donc voilà. On a quelques minutes pour des questions, pour la discussion.